Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. Le grand débat n'empêche pas de manifester. Au 10e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, de nombreux rassemblements sont convoqués dans tout le pays, notamment ce matin à Paris où des centaines de manifestants sont partis des Invalides direction la place d'Italie dans le calme. On s'attend à des mobilisations au moins aussi importantes que la semaine dernière, malgré le grand débat lancé par Emmanuel Macron cette semaine face aux élus locaux. Invité de ce journal, le maire Les Républicains de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Dans ce journal également, l'adieu des Polonais au maire de Gdansk assassiné. Une alternance qui se fait sans heurts à Madagascar, où le nouveau président a été investi ce matin. Le dernier Français en compétition à l'Open d'Australie, Lucas Pouille, contre un Australien au troisième tour. Un spécial Varda à la Cinémathèque française à Paris, c'est le Conseil Culture d'Eva Bétan. Et puis, de la douceur à l'ouest et dans le sud-est, attention aux pluies verglaçantes dans le centre, le nord de la Seine et la Bourgogne.
France Inter.
Débattre et battre le pavé, l'un n'empêche pas l'autre pour les Gilets jaunes qui se sont donné rendez-vous pour un 10e samedi de mobilisation partout en France, notamment à Paris. Le lancement du grand débat national voulu par Emmanuel Macron n'y aura rien changé, ni même ces deux après-midi d'échange avec les élus du monde rural. On va y revenir. C'est dans la capitale ce matin qu'ont eu lieu les premiers rassemblements, en tout cas les plus importants, sur la place des Invalides, direction place d'Italie. Julie Pietri, vous êtes à l'arrière du cortège et tout va bien.
Oui, tout se passe dans le calme pour l'instant. Les mots que l'on entend souvent, c'est ou crier notre colère, ou sortir notre gilet jaune, nos drapeaux français, si ce n'est ici dans la rue, les uns près des autres. Ici, la manifestation est perçue comme le moyen d'expression le plus porteur. Le reste, le grand débat national ne convainc pas.
Bien sûr que non, si, à nous endormir, c'est tout. Et oui Manu, et belle parole.
C'est tous des menteurs, ça sert à rien du tout. C'est comme les maires, qu'est-ce qu'ils travaillent pour eux. L'autre c'est pour la maternité, l'autre il a dit ci, l'autre il a dit ça. Ça sert à rien du tout, ils parlent pas de petits comme moi, qui est de petite retraite, ils en parlent pas.
On vient te chercher chez toi.
C'est du pipeau, c'est de la poudre de perlimpinpin pour reprendre ses paroles. Et je voudrais juste poser une question à monsieur Macron. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans nos demandes? On te demande de pouvoir manger jusqu'à la fin du mois. C'est pas compliqué quand même. On veut avoir un peu plus de pouvoir d'achat.
Alors moi, le grand débat, je n'y crois pas du tout. Mais c'est important de le faire quand même, d'y aller, parce que si jamais on s'exprime pas et qu'il n'y a pas de remontée, on ne pourra pas dire, on ne nous a pas pris en considération.
Tonton, on va faire comment? Tu peux me dire?
On va faire comment? On va continuer à montrer nos pancartes qui racontent violence policière et impossible fin de mois. Jusqu'à quand ça, la plupart des personnes interrogées ce matin ne le savaient pas.
Julie Pietri avec Benjamin Thuot pour les moyens techniques. Du côté des autorités, on dit s'attendre à une mobilisation au moins égale à celle de la semaine dernière, avec plus de 80 000 manifestants recensés par le ministère de l'Intérieur. D'importants rassemblements sont attendus également à Bordeaux, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, à Toulouse, où nous rejoindrons dans un instant le maire Jean-Luc Moudenc, et à Caen, où vous vous trouvez, Marcelin Robin. Ils sont entre 2500 et 3000.
Oui, et le cortège passe en ce moment à côté du centre commercial des Rives de l'Orne, près de la gare de Caen. C'est ici qu'ont eu lieu les violences la semaine dernière. Pour l'instant, et comme chaque samedi, la marche du matin est calme. Ils étaient environ 3000 gilets jaunes au plus fort de la manifestation. Le cortège s'est scindé en plusieurs groupes il y a quelques minutes. Le plus important marche en direction du viaduc de Calix, qui fait partie du périphérique de Caen. Plusieurs affrontements ont eu lieu sur ce viaduc en 2 mois de mobilisation. Pour l'instant, les gilets jaunes canet marchent calmement, il n'y a pas d'affrontement, mais l'après-midi ne fait que commencer.
Marcelin Robin à Caen. Des gilets jaunes qui manifestent mais ne sont pas tous opposés au débat. On l'a vu il y a quelques instants, débat lancé cette semaine par le président de la République lui-même, qui est allé au charbon dans l'Eure, mardi à Souillac dans le Lot hier. 6h30 d'échange avec les élus, notamment les maires ruraux de Normandie et puis d'Occitanie, sachant, comme le lui a dit le président des maires ruraux du Lot, que ce grand débat ne devait pas être un grand bluff, car ce ne sont pas des mots seuls qui mettront fin à la crise des gilets jaunes. Lesquels veulent avoir leur mot à dire, comme à Besançon hier soir, où après avoir été refusés dans un premier temps parce qu'ils refusaient la fouille des sacs, les Gilets jaunes ont pu débattre avec le délégué de La République En Marche, Stanislas Guérini. Virginie Vandeville.
Oui, alors que les fouilles au corps s'enchaînent, les portes se ferment soudainement sous le nez des gilets jaunes.
On fait une demi-heure de route pour venir, on peut même pas rentrer.
Non mais là, c'est n'importe quoi.
S'il y a ce débat, c'est du fait des gilets jaunes. Et de pas les laisser rentrer, c'est un déni de démocratie.
Là, c'est eux qui cherchent la haine et la violence.
Après avoir forcé les portes, le débat démarre dans une ambiance électrique. Debout, face à Stanislas Guérini, le patron d'En Marche, un gilet jaune laisse éclater sa colère.
Et vous ouvrez même pas la porte à la classe ouvrière, aux gens qui se battent et qui travaillent tous les jours. Et voilà, ils sont pas...
Des cris du cœur qui s'enchaînent pendant près de 2 heures. Des échanges bénéfiques pour le délégué général En Marche.
Ben c'est normal. Ceux qui voulaient parler, ils ont pu parler. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Je crois qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression que c'est un débat de dupes. On n'est pas là pour faire les sourds. On est là pour entendre, y compris parfois se faire engueuler. C'était le but de la soirée. Et en ce sens-là, même si c'était viril à de nombreux moments, ben moi, je trouve que c'est aussi un exercice qui est réussi.
Et les Gilets jaunes comptent bien peser dans ce débat national. Ils seront présents au prochain rendez-vous, jeudi, à Besançon.
Invité de ce journal en ligne de Toulouse, le maire Les Républicains Jean-Luc Moudenc, bonjour.
Bonjour.
Le rendez-vous des Gilets jaunes dans votre ville, c'est dans quelques instants, à 13h30. Vous avez demandé un renforcement des forces de l'ordre. Vous attendez beaucoup de monde ou des débordements ?
Ben oui, parce que malheureusement, les manifestations des Gilets jaunes n'ont plus rien à voir avec l'inspiration initiale du mouvement. En réalité, chaque manifestation, systématiquement, devient la porte d'entrée des casseurs, nombreux, des ultras qui sont là, qui affrontent les forces de l'ordre, qui les agressent, qui ensuite cassent, dégradent le mobilier urbain, dégradent les vitrines des commerces. Ça se passe comme ça chaque samedi. Donc effectivement, je pense qu'il est irresponsable de maintenir cette forme de manifestation et de revendication.
Et vous avez obtenu un renforcement des forces de l'ordre ?
Oui, j'ai demandé au président de la République jeudi, lorsqu'il est venu à Toulouse pour présenter ses vœux aux armées de renforcer les effectifs pour ce samedi. Et hier, j'ai fait le point avec le préfet, puisque les forces de l'ordre sont placées sous l'autorité du préfet, pas sous l'autorité du maire. Et il m'a dit qu'il avait obtenu les renforts que j'avais demandé.
Alors, vous aviez demandé aussi des mesures de soutien pour les commerçants, à la région et au président de la République. Vous décrivez des professionnels au bord du gouffre, des dépôts de bilan, des licenciements. Est-ce que vous ne noircissez pas un peu le tableau ?
Non, il faut se mettre au contraire sur le terrain, dans la réalité. Vous savez, quand vous êtes un petit commerçant, que vous êtes indépendant, que vous avez mis toutes vos économies dans une affaire, vous comptez sur le mois de décembre, qui est un mois très important. Ben, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, vous espérez vous rattraper sur le mois des soldes. Ben, là aussi, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vois bien ce qui se passe. Depuis plusieurs samedis, les gens ont compris. Ils ne viennent pas dans le centre-ville. Ils ne viennent pas acheter. Ils vont acheter sur Internet, donc tout ça est extrêmement mauvais pour le commerce, et d'abord pour le petit commerce. C'est les petits qui crèvent en premier, et d'ailleurs c'est le paradoxe de ce mouvement. C'est un mouvement qui a prétendu défendre les plus faibles, et qui aujourd'hui aboutit à justement fragiliser les plus faibles. Et moi, ce que je crains, et ce que j'entends dire maintenant, c'est que dans les semaines à venir, il va y avoir des vagues de licenciements, parce que les pertes de chiffre d'affaires sont telles que les entreprises et les entrepreneurs n'en peuvent plus.
Alors qu'est-ce qu'il faut là ? Des exonérations de charges, d'impôts ?
Oui, ce qu'on a demandé, c'est à l'État de faire un geste, parce que c'est une situation totalement exceptionnelle, donc un geste exceptionnel, avec des exonérations de charges sociales, patronales, avec des exonérations d'impôts, de manière à permettre à certains commerçants de respirer. Évidemment, en ciblant les zones qui ont été touchées par les manifestations et les commerces qui ont été atteints par ce qui s'est passé.
Alors vous étiez à Souillac hier. Est-ce que les réponses du chef de l'État aux élus locaux en général sont satisfaisantes ? Sur la décentralisation par exemple, que vous souhaiteriez approfondir ?
Oui, moi je pense que un des mots parmi tant d'autres, qui sont dénoncés dans tout ce que l'on se dit depuis quelques semaines, c'est le fait que nous avons en France un État qui est resté trop centralisé dans sa propre organisation et une administration centrale qui souvent se méfie des élus locaux, qui ne leur fait pas confiance. Et donc, j'ai entendu le chef de l'État là-dessus dire qu'il était d'accord pour travailler ce sujet. Moi, ce que j'ai trouvé hier, c'est que d'abord, la parole était libre. Il y a eu des interventions de toute tonalité, y compris fort critiques à l'égard du chef de l'État. Toutes ont été écoutées, il a répondu à tout. Il a pris plus de 6 heures pour le faire. Personne n'a fait ça avant lui, parmi les présidents de la République que nous avons eus.
Enfin, c'est le fond qui compte, hein, plus que la forme.
Oui, bien sûr, c'est le fond qui compte, et justement, sur le fond, vous savez, le fond n'est possible que quand il y a la forme. La forme, visiblement, elle n'y était pas, hein, depuis le début du quinquennat. Il me semble que là, l'écoute est là, et elle est plus forte que jamais. Et puis sur le fond, sur divers sujets qui ont été posés, la décentralisation ou la déconcentration, sur le 80 km/h qui, dans certains endroits, dans des campagnes, pénalise une partie de nos concitoyens de la ruralité, sur également les lois de décentralisation, la fameuse loi NOTRe, qui date de l'époque de François Hollande, mais qui s'applique maintenant, sur tous ces sujets-là, le président de la République a ouvert les choses sur le fond, accepte de rediscuter telle ou telle chose. Et d'ailleurs, ça sera utile, ce débat, que si on peut redéfinir des choses à la fin du débat.
Vous allez en organiser des débats vous-même ou les faciliter à Toulouse ?
Voilà, je vais les faciliter parce que je crois que le rôle du maire, surtout dans les grandes villes, c'est pas d'être organisateur, mais c'est de faciliter. Et puis on a mis en place des cahiers d'expression citoyenne dans une trentaine de lieux, au plus proche des gens, dans les quartiers.
Juste un dernier mot à Jean-Luc Moudin, que votre président, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, n'est pas du tout de votre avis concernant ce débat, hein.
Bah écoutez, on a le droit dans la même famille d'avoir des opinions différentes. Hein. Simplement, moi je pense qu'il faut bien essayer de sortir de cette crise par une pratique démocratique. Le débat, c'est une pratique démocratique. Alors on peut dire, je veux pas du débat, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de surmonter la crise actuelle ? Il y a une réponse d'ordre public qui est absolument nécessaire. Moi-même, vous le rappeliez tout à l'heure, je demande que l'ordre public soit rétabli, mais les problèmes de fond, ils vont pas être réglés par les mesures d'ordre public. Donc, il faut à la fois rétablir l'ordre public et aller sur le fond des choses. C'est des problèmes que la société française traîne depuis une trentaine d'années. Si on ne prend pas l'occasion de cette crise pour en parler entre nous et pour trouver des orientations nouvelles, qu'est-ce qu'on fait ?
Merci.
Qu'est-ce qu'on fait d'autre ?
Merci à vous, Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains de Toulouse. Merci.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamps.
La Pologne dit adieu au maire de Gdansk, assassiné, poignardé en public dimanche dernier dans une fête caritative. Il est mort le lendemain à l'hôpital, suscitant une très forte émotion dans la population. Thomas Giraudeau en Pologne.
Les sirènes résonnent à Gdansk à midi quand débutent les funérailles officielles du maire. Paweł Adamowicz, incinéré hier soir après une procession du cercueil dans les rues de la ville à laquelle ont assisté des milliers d'habitants. Ils sont plus nombreux encore aujourd'hui dans l'église et à l'extérieur, silencieux devant les 5 écrans géants installés à Gdansk. Certains font flotter le drapeau de la ville et celui de la Pologne. D'autres arborent un cœur rouge, symbole du grand orchestre de la charité de Noël, l'événement durant lequel Paweł Adamowicz a été assassiné dimanche soir. Sa mort tragique nous a tous remplis de tristesse, déclare l'archevêque de la ville au début de la messe, après que l'hymne polonais ait résonné dans l'église. Au premier rang, à droite, la femme de Paweł Adamowicz, ses 2 enfants et son frère. À gauche, sa famille politique, le président du Conseil européen, Donald Tusk, et l'ancien chef de l'État, Lech Walesa. Les cendres de Paweł Adamowicz reposeront dans la basilique où se déroulent les obsèques. En Pologne, Thomas Giraudeau, France Inter.
À Madagascar, c'est une première, une alternance démocratique qui se fait en douceur. Même ses adversaires assistaient ce matin aux cérémonies d'investiture du nouveau président, Rajoelina, en présence également de l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, venu à titre privé, Sarah Tetto.
Pieds nus, le visage grimé d'orange, la couleur du parti du nouveau président, Sarah tente de se faire une place sur la pelouse du stade. Elle est arrivée cette nuit après 24 heures de trajet, fatiguée mais heureuse.
Je viens de sud de Madagascar, je suis venue avec les 3 enfants, en gros Percy Bruce. Je voulais voir André Joël, j'ai voté pour lui, pour changer notre vie.
À la tribune, Andrzej ne rappelle devant ses 3 prédécesseurs, tous candidats à cette élection présidentielle, que pour la première fois de l'histoire du pays, les Malgaches viennent de vivre une alternance démocratique et une passation pacifique entre 2 présidents élus. Puis il ajoute
« Comme un bateau à voile, le peuple malgache va s'y tendre, mais jamais il ne sombre. Ainsi je serai un capitaine digne de leur confiance, je vous conduirai à bon port, le port du développement. » Le port de la croissance, le port de l'émergence et le port de la réussite.
Le nouveau président n'a pas caché ses ambitions de recourir au financement privé plutôt qu'aux bailleurs traditionnels pour rattraper le retard de développement de l'île. Est-ce la raison de la venue très remarquée de Nicolas Sarkozy, administrateur du groupe Accor ? La communication du clan Radziwill affirme qu'il a été envoyé par Emmanuel Macron pour le représenter, ce que l'ambassade de France, ici, dément formellement. À Antananarive, Sarah Tetto pour France Inter.
Au cinéma, ce week-end, partout en France, on peut profiter pour quelques jours encore du festival Télérama, on va y revenir. À Paris, on peut aller aussi à la Cinémathèque française pour un spécial Agnès Varda, 15 jours avec Varda pour réviser ou découvrir une œuvre très particulière. Eva Bétan, toujours aussi fan.
Varda et encore Varda, chic alors. Cheminer à travers ses films, c'est se promener dans l'œuvre d'une grande artiste, saluée d'un Oscar d'honneur. C'est butiner dans plus de 60 ans de cinéma, depuis La Pointe Courte en 1954, film précurseur de la Nouvelle Vague, jusqu'à Visage Village en 2017. Agnès Varda sillonne la France en camion avec JR.
Ah oui, je suis toujours partant si on va vers des villages, vers des paysages simples, vers des visages.
Entre les deux, ne ratez pas Cléo de 5 à 7, film novateur des années 60. Une femme attend de savoir si elle a un cancer. Indispensable, sans toi ni loi, magnifique portrait d'une jeune routarde, Sandrine Bonner. Voyez les glaneurs et la glaneuse. La sollicitude d'Agnès Varda se porte aussi sur ces légumes mis au rebut car jugés biscornus dans nos sociétés gaspilleuses. Pour mieux la connaître, elle, asseyez-vous aussi devant les plages d'Agnès, sorte d'autoportrait buissonnier. Voyager dans le cinéma d'Agnès Varda, c'est prendre un bain d'humanité et de fantaisie, car Agnès Varda a le goût des autres.
Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens. Je les ai filmés, ou pas, compris ou pas, admirés.
15 jours avec Agnès Varda, Cinémathèque française, jusqu'au 28 janvier. Toujours pour les amoureux de cinéma, mais cette fois partout en France. Le festival Télérama, c'est jusqu'à mardi, des films à 3,50€ pour voir ou revoir le meilleur de 2018, Vincent Lacoste dans Amanda, La Palme d'Or, L'Affaire de Famille de Kore-eda, ou encore le film Leto du russe Serebrennikov, dont on vous recommande chaleureusement la BO, sortie en partenariat avec France Inter. Voilà, faire aussi ce week-end la vente aux enchères, bien sûr, de matériel audio numérique qui va démarrer tout à l'heure à 14h30 à la Maison de la Radio. Horloge, platine, ampli, enceinte, Nagra, ou même pour les plus fortunés, un piano Steinway estimé entre 5 000 et 15 000 euros. Du matériel est également disponible à la vente sur Internet jusqu'au 28 janvier sur art-richelieu.fr. Les 3W, bien sûr, art-richelieu.fr. En sport, à l'Open d'Australie, s'il n'en reste qu'un après l'élimination de Pierre-Hugues Herbert cette nuit par le Canadien Raonic, Lucas Pouille est le dernier espoir des tricolores au troisième tour face à l'Australien Alexei Popirine, 149e joueur mondial. S'il gagne, il pourra jouer son premier huitième de finale du Grand Chelem depuis 18 mois, ce qui ferait du bien au moral. Nous rejoindrons peut-être Fabrice Abgal dans un instant, à voir. En tout cas, Djokovic, lui, a perdu un set la nuit dernière face au jeune Canadien Chapovalov. Ça ne lui était plus arrivé depuis 24 manches dans un grand chelem. Chez les femmes, la numéro 1, Simona Halep, rejoint Serena Williams en 8e après avoir dominé la grande sœur Vénus en 2-7. Fabrice Abgal, vous êtes là ?
Bon, je suis là.
Alors, des nouvelles de Lucas Pouille peut-être ?
Ouais, il a eu une balle de match, Lucas Pouille, dans le troisième set, dans le tie-break du troisième set. Lui qui mène 2-7-0, 7-6, 6-3 dans les deux premières manches. Mais Popirine, dans ce tie-break, a réussi à se procurer 4 balles de set, une 5e balle de set maintenant en faveur de Popirine. Il peut avoir des regrets, hein, Lucas Pouille, parce que c'est lui qui a dominé ce tie-break. Il menait 4-0 dans cette manche décisive, mais il a laissé revenir Popirine dans ce tie-break. Donc maintenant, 5e balle de set en faveur de Popirine. Alors que, je vous le disais, Lucas Pouille a bénéficié d'une balle de match, mais qu'il n'a pas pu convertir. Donc attention, Lucas Pouille, s'il perd ce set, eh bien, il va falloir redoubler d'efforts pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui serait pour lui une grande première ici à l'Open d'Australie.
Fabrice Abgral, on vous retrouve évidemment tout à l'heure à 14h. Du hand, ce soir à 18h, les Bleus en position de favori face aux Espagnols pour le tour principal des championnats du monde. Ce soir, l'Espagne avant l'Islande demain et la Croatie mercredi pour une place en demi-finale. Et puis du foot également ce soir, c'est un peu le France-Brésil des féminines, France-États-Unis, la meilleure équipe du monde. Premier match amical des Bleus cette année, le match se dispute au Havre. Tous les billets ont été vendus, soit 22 870 spectateurs attendus au stade Océane. Le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Doux à l'ouest et près de la Méditerranée avec 10 à 12 degrés cet après-midi de l'Aquitaine à la Bretagne, 11 à 13 du Golfe du Lion à la Côte d'Azur et sur la Corse avec des ondées sur la façade atlantique ainsi que des Alpes du Sud à la Corse. Sur le reste du pays, les températures parties de très bas vont stationner entre 1 et 4 degrés en général et la perturbation qui balaie une large moitié nord du pays va donner un risque de neige et encore de pluie verglaçante en cours d'après-midi entre le centre, le nord de la Seine et la Bourgogne, ce soir et la nuit prochaine, du nord-est au Massif central, avec des températures nocturnes de l'ordre de moins 2 degrés sur les régions centrales et du nord-est.